Voici une question qui doit retenir l'attention de tous nos auditeurs. Comment peut-on savoir si on aime vraiment Dieu? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qu'il faut absolument connaître aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je pense que tous ceux qui désirent connaître la volonté de Dieu à leur égard vont réellement aimer l'enseignement qu'on va recevoir du grand livre de Dieu aujourd'hui, suite aux questions que voici. Est-ce que nos chants doivent proclamer la parole de Dieu? Quels sont les principes que nous devons utiliser pour déterminer si nos chants sont admissibles dans nos églises? Qu'est-ce que la théocratie? Qu'est-ce que la monarchie? Laquelle Dieu préfère-t-il, la théocratie ou la monarchie? Comment est-ce qu'on peut voir si on aime vraiment Dieu? Demeurez à l'écoute. C'est tellement bon de savoir qu'une fois de plus, aujourd'hui, on va pouvoir être enrichi dans nos vies par la vérité que Dieu a inspirée aux écrivains, qu'il a choisi pour nous transmettre sa parole. Écoutons bien ce que Dieu va nous dire par la bouche du pasteur Régent Joly. Laissons Dieu nous transformer aujourd'hui même. Demandons-lui de le faire pour sa gloire. Prions. Oui, Seigneur, on désire que tu nous transformes par ta parole, que tu nous transformes de gloire en gloire, comme dit ta parole, pour qu'on devienne à la stature de Jésus, bientôt, mon Dieu. Transforme-nous, enseigne-nous. On est comme des petits-enfants qui écoutent leur papa et on désire connaître tes instructions pour nous. Parle-nous, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que David poursuit les préparatifs pour la construction du temple. L'aménagement d'un temple revêt une très grande importance aux yeux de Dieu. En effet, le problème fondamental de l'humanité est sa séparation d'avec Dieu. Tous les programmes gouvernementaux souffrent de la corruption du cœur des humains qui les gèrent. David encouragea son fils à construire le temple et il ordonna au chef d'Israël de l'aider. Puis, il assigna de nouvelles tâches aux Lévites, qui n'auront plus à transporter le tabernacle dans les déserts ou ailleurs. Il sera désormais aménagé à Jérusalem. Nous avons tiré une leçon importante de cela. Dieu veut que nous le servions avec enthousiasme, et lorsqu'un ministère a atteint ses objectifs, il n'a plus sa raison d'être. Il faut passer à autre chose. Dieu ne veut pas des églises actives qui tournent en rond, mais des églises d'action qui accomplissent son plan envers l'humanité. Au chapitre 24, David organise le service des prêtres qui offriront des sacrifices. Chers amis, débutons notre lecture. 1 Chroniques, chapitre 24, versets 1 et 2. Voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père, sans avoir de fils, et Éléazar et Ithamar remplirent les fonctions du sacerdoce. Les fils d'Aaron furent des sacrificateurs ou des prêtres. La mort de Nadab et d'Abihu se produisit alors que le peuple était dans le désert. Nous trouvons le récit de l'événement au chapitre 10 du livre du Lévitique. Ce sont donc les descendants d'Éléazar et d'Ithamar qui occupèrent les fonctions de sacrificateurs. Verset 3. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Tsadok appartenait aux descendants d'Éléazar et Achimélec aux descendants d'Ithamar. David est en train de monter un système très organisé. Il faut de l'organisation. Dans tous les ministères de Dieu, dans nos églises. David n'a pas seulement acheté une propriété pour y construire un temple et accumuler des matériaux pour la construction, mais il a aussi organisé les prêtres pour faire le service. C'est pourquoi J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, pense que l'on devrait parler du temple de David plutôt que du temple de Salomon, puisque c'est David qui a tout organisé. Verset 5. On les classa par le sort, les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire et les chefs de Dieu étaient des fils d'Éléazar et des fils d'Ithamar. Il y avait 24 classes de prêtres, chers amis. Un groupe venait faire le service sous la direction d'un fils, et ensuite c'était le tour d'un autre groupe sous la direction d'un autre fils. Ce devait être tout un spectacle. Ce devait être une cérémonie comme le changement de garde au palais de Buckingham à Londres. Lorsqu'il y avait un changement d'équipe pour le service du temple, le tout devait se faire avec ordre et précision. Les familles des Lévites étaient plus nombreuses, donc les Lévites ne pouvaient pas faire le service simultanément. En effet, la tribu de Lévi était passée de 8000 âmes à 38000 âmes depuis l'époque de Moïse. C'est pour cette raison que David les a divisés en 24 classes. David consulta Dieu dans les moindres détails de l'organisation du temple. Notez que les classes furent formées par un tirage au sort. Cette méthode de procédé permettait à tous de voir que les postes avaient été attribués par Dieu. L'Urim et le Thummim, utilisés pour connaître la volonté de Dieu dans l'Ancien Testament, comprenaient un tirage au sort. Dieu avait donné cette méthode à Moïse, afin que les prêtres puissent consulter Dieu pour le peuple. L'Urim et le Thummim furent peut-être pas utilisés pour former les classes de Lévites, mais David n'a pas créé un précédent en tirant au sort pour attribuer les fonctions. Les Lévites considéraient le résultat comme étant la volonté de Dieu. De plus, cette manière de fonctionner évitait de provoquer des rivalités et de l'envie parmi les prêtres. Elle prévenait aussi les accusations de favoritisme et d'injustice. L'Urim et le Thummim furent moins utilisés après l'arrivée des prophètes pour parler au nom de Dieu. Ils ne sont pas mentionnés dans la période allant du début de la monarchie jusqu'au retour de l'exil. À ce moment, Dieu avait établi le mouvement prophétique. Dans la section suivante, les fils de Kehath sont divisés et ensuite c'est au tour des fils de Merari de l'être. Au chapitre 25, nous allons voir que David s'est pris de la même façon pour organiser les chanteurs et les musiciens. Lisons ensemble 1 Chronique chapitre 25, versets 1 et 2. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaph, d'Éman et de Jedudun, qui prophétisait en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Azaph, Zakur, Joseph, Netania et Ascaréla. Fils d'Azaph, sous la direction d'Azaph, qui prophétisait suivant les ordres du roi. Toute cette belle organisation se fit avant la construction du temple. Dans le psaume 68, un psaume merveilleux de David, nous lisons « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. » Le psaume 68, versets 28 et 29. David anticipe le jour où le temple sera érigé à Jérusalem comme témoignage au monde entier. Avant la construction du temple, les chanteurs et musiciens se réunissaient déjà à Jérusalem pour adorer Dieu, et ce fut l'un des cantiques qu'ils chantèrent. Voyez-vous, David avait déjà fait monter l'arche à Jérusalem, et elle était installée sous une tente. Puis, il y avait un autel sur l'aire d'Ornan, là où David avait offert des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce pour Dieu. Aujourd'hui, nos chants proclament-ils la parole de Dieu? Les chanteurs et les musiciens étaient-ils des prophètes? Le texte affirme qu'ils prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. C'est David qui avait rédigé la plupart des psaumes à cette époque. Ses écrits font partie de la Bible et sont inspirés de Dieu. De même, Asaph écrivit aussi des psaumes que nous retrouvons dans le livre du même nom. D'autres personnes en écrivirent aussi. Ces psaumes étaient tous inspirés de Dieu, puisqu'ils font maintenant partie des Écritures, de la Bible. En chantant, la classe des musiciens proclamait la parole de Dieu. En ce sens, ils étaient des prophètes. Ils annonçaient et proclamaient la parole de Dieu lorsqu'ils chantaient publiquement un psaume inspiré. Chers amis, qu'en est-il des chants dans nos églises? Proclament-ils la parole de Dieu? Les cantiques traditionnels que l'on chantait il y a au-delà d'un siècle étaient riches en doctrine et en vérité spirituelle. Lorsqu'on les écoutait, c'était la parole de Dieu qui touchait les cœurs, pas la musique. Aujourd'hui, nous avons encore ces précieux cantiques, mais nous en avons d'autres aussi. Certains déforment même la vérité. D'autres n'ont que de belles paroles vagues, sur un air entraînant. Souvent, nos chants ne font que susciter des émotions. Ils ne touchent plus les cœurs avec la vérité. Nous avons d'interminables discussions sur quel type de musique est acceptable ou non dans nos églises. Cependant, dans l'Épître aux Corinthiens, nous lisons « Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. » Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. 1 Corinthiens chapitre 19, versets 24 et 25. Dans ce texte, nous avons 2 principes pour déterminer si des chants sont admissibles dans une église. Si vous pouvez répondre oui à ces 2 questions au sujet d'un chant, alors utilisez-le avec la bénédiction de Dieu. Premièrement, les paroles contiennent-elles un enseignement conforme à celui de la Bible? Et deuxièmement, les paroles sont-elles faciles à entendre sans effort extraordinaire de concentration? Si vous pouvez répondre oui à ces 2 questions, le cantique et sa musique sont admissibles. Poursuivons notre lecture, versets 7 et 8. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères exercés au champ de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. Ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Eux aussi furent divisés en 24 groupes, donc il y aurait aussi un changement de service 2 fois par mois. Chaque groupe servait environ 2 semaines par mois. Ensuite, ils retournaient dans sa ville respective et ils y faisaient aussi un certain service. Les prêtres et les lévites servaient en enseignant et de diverses façons à travers le territoire d'Israël. Je pense que toute cette organisation fut un des plus grands accomplissements du règne de David. Dieu a noté cela et c'est enregistré dans le texte biblique, chers amis. Mais organiser les prêtres et les musiciens n'était pas suffisant. Qui allait nettoyer et faire l'entretien du temple? Qui le garderait? Au chapitre 26, nous voyons que David a tout prévu pour cela. 1 Chronique, chapitre 26, verset 1er. Voici les classes des portiers. Des Corites, Meshelemia, fils de Corée, d'entre les fils d'Azaph. Eux aussi furent divisés en diverses classes, comme le furent les prêtres et les musiciens. Pendant que tous serviraient, quelqu'un devait monter la garde. Les portes du temple seront surveillées 24 heures sur 24. Passons au verset 13. Ils tirèrent au sort pour chaque porte, petits et grands, selon leur maison paternelle. Donc un groupe de gardes fut assigné pour toutes les portes du temple. Il faudra aussi un trésorier pour gérer les finances du temple. Il devra faire un rapport régulièrement. Verset 20. L'un des Lévites, Achija, avait l'intendance des trésors de la maison de Dieu et des trésors des choses saintes. Les trésoriers étaient responsables des trésors accumulés pour construire le temple et l'équiper afin qu'il soit fonctionnel. Versets 26 à 28. C'était Shélomite et ses frères qui gardaient tous les trésors des choses saintes qu'avait consacrées le roi David, les chefs des maisons paternelles, les chefs de milliers et de centaines et les chefs de l'armée. C'était sur le butin pris à la guerre qu'il les avait consacrés pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Tout ce qui avait été consacré par Samuel, le voyant, par Saül, fils de Kis, par Abner, fils de Ner, par Joab, fils de Tseruja, toutes les choses consacrées étaient sous la garde de Shélomite et de ses frères. Les Lévites devaient aussi servir de juges. Ils exerçaient de nombreuses fonctions officielles. À l'origine, Dieu avait prévu une théocratie. C'est-à-dire, il avait prévu régner directement sur la nation d'Israël. Le tabernacle se serait trouvé au centre de la communauté, et les prêtres auraient consulté Dieu pour connaître sa volonté. Ceci fut modifié à cause de la corruption de certains Lévites. Dieu a suscité des juges, et le peuple a demandé un roi. C'est la raison pour laquelle David est maintenant sur le trône. Quoique Israël soit maintenant une monarchie, David insiste pour que la nation revienne sous le contrôle de Dieu. Lisons ensemble 1 Chronique chapitre 27, verset 1er. Enfants d'Israël, selon leur nombre, chefs de maison paternelle, chefs de milliers et de centaines, et officiers au service du roi pour tout ce qui concernait les divisions, leur arrivée et leur départ, mois par mois, pendant tous les mois de l'année, chaque division était de 24 000 hommes. 12 officiers au service du roi servaient un mois par année et ils avaient 24 000 personnes sous leurs ordres. Passons au verset 16. Voici les chefs des tribus d'Israël, chefs des Rubénites, Eliézer, fils de Zikri, des Siméonites, Shephatia, fils de Maaca, et ainsi de suite, un homme provenant de chaque tribu d'Israël, de sorte que 24 princes se partageaient la tâche. Maintenant, notez ce verset, le 23e de 1 Chronique chapitre 27. David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de 20 ans et au-dessous, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. David avait fait le dénombrement auparavant, parce qu'il ne faisait pas confiance en Dieu. Ce dénombrement était une manifestation de son incrédulité. Dieu lui avait demandé de lui faire confiance et qu'il lui donnerait tous les hommes nécessaires pour son armée. Maintenant, David ne fait plus de dénombrement, mais il croit Dieu et il a confiance en ses promesses. Le chapitre 27 se termine avec la liste des officiers responsables des propriétés personnelles de David. Dans les deux derniers chapitres du premier livre des Chroniques, nous voyons David convoquer tous les chefs en Israël. C'est une rencontre importante, car c'est une des dernières, car David est très âgé. Il livrera un message à la nation d'Israël, et un autre pour son fils Salomon. Toute la nation entendra le message adressé à Salomon. C'est un geste sage de la part de David. 1 Chronique, chapitre 28, verset 1er. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers, les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Ce sont les hommes qui occupent des postes de chef en Israël. Ce sont eux qui dirigent la nation. Verset 2. Le roi David se leva sur ses pieds et dit, « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. » Malgré son âge avancé, il se lève debout pour prononcer son discours final à la nation. Le message est très important. Verset 3. Mais Dieu m'a dit, « Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. » David fait une confession honnête à la nation. Il explique pourquoi Dieu ne lui a pas permis de construire le temple. Il fut un homme de sang. Verset 5. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. David indique clairement que c'est Dieu qui a choisi Salomon pour lui succéder sur le trône. Il place toute la responsabilité sur les épaules de Dieu. Cela donne l'impression que Salomon n'aurait pas été le choix de David pour lui succéder. Verset 6. Il m'a dit, « Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. » David a mis tout son cœur à faire les préparatifs pour la construction du temple. Il s'est soumis à Dieu qui lui a dit que ce ne serait pas lui qui construirait le temple. Cependant, il a préparé les matériaux et les équipes de travail. Il encourage Salomon à entreprendre la construction lui-même. Versets 8 et 9. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'Assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Oui, chers amis, ce que Dieu réclame, ce que Dieu demande, ce qu'il cherche, c'est notre cœur. Les deux versets que nous venons de lire contiennent les recommandations les plus importantes. Israël et Salomon sont invités à aimer Dieu. Celui-ci connaît tous les cœurs et toutes les pensées. Il connaît les intentions de chacun. David encourage son fils en lui disant que l'Éternel se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Mais il donne aussi un avertissement. Si Israël ne prend pas à cœur les commandements de Dieu, donc n'aime pas son Dieu, il ne pourra posséder l'héritage. Salomon sera rejeté si son âme n'est pas bien disposée. Mes amis, se pourrait-il que vous stagniez spirituellement parce que vous n'aimez pas vraiment Dieu, de tout votre cœur, de tout votre être? David va remettre les plans et la maquette du temple à Salomon. 1 Chronique, chapitre 28, verset 11, nous lisons, « David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments. » Des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Tout a été préparé d'avance, tout a été conçu. David peut remettre les plans à Salomon. Dieu est prêt, lui aussi, à vous remettre son plan concernant votre vie. Mais pour cela, il faut que votre cœur soit disposé à le recevoir. Es-tu prêt maintenant à ouvrir ton cœur? Inviter Dieu à pouvoir y transmettre tout son plan merveilleux concernant ta vie, ici-bas, au moment présent, et ta vie, en ce qui a trait à ton éternité. Tu n'as qu'à faire ce choix. Dieu ne force pas du tout, mais il te l'offre. Il te l'offre gratuitement, à toi maintenant, de le recevoir, ce merveilleux plan concernant ta vie. Un plan si merveilleux, des desseins qui conduisent au véritable bonheur. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Chronique, chapitre 28, verset 11, à chapitre 29, verset 30.
Merci beaucoup, Régent. Dieu veut notre cœur. C'est pas merveilleux, ça? Il nous aime. Il veut qu'on l'aime en retour. Il veut qu'on prenne à cœur tous ses commandements, parce qu'il désire nous bénir. Il désire qu'on possède ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il veut qu'on le serve d'un cœur dévoué, tout comme il voulait qu'il en soit ainsi pour le roi Salomon. Dieu aime se faire connaître à nous. Il veut qu'on s'applique à le connaître, en lisant sa parole et en étant attentif aux choses qu'il nous enseigne, même par les événements de notre vie. Quand on le cherche, il se laisse trouver par nous. Au cours de cette émission, Dieu nous a invités à l'aimer. On a vu qu'il connaît nos cœurs, nos pensées, nos intentions. Quand je pense à ça, j'ai honte de certaines pensées que j'ai eues à certains moments de ma vie. Des pensées que Dieu n'approuve pas. Parfois, ça a été des jugements mal fondés envers d'autres personnes. Par exemple, dans mes premières années, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai cru que des gens qui faisaient partie de certaines autres assemblées évangéliques n'étaient pas sauvés. Croyez-moi, mes amis, je m'en suis repenti sincèrement. Quand je vois combien ma nature pécheresse prend le dessus sur moi parfois, je réalise à quel point Dieu est patient envers moi, à quel point il est si miséricordieux pour me pardonner encore et encore. Oh, bien sûr, il m'a pardonné tous mes péchés, passés, présents et à venir, quand j'ai reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais je sais très bien que pour maintenir une bonne relation avec lui, même si je suis certaine d'aller au ciel un jour, j'ai encore à avouer mes transgressions, à lui en demander pardon et à m'en détourner. Mes amis, si aujourd'hui je tiens à m'éloigner du péché, ce n'est pas par crainte de perdre la vie éternelle que j'ai reçue une fois pour toutes le jour de ma conversion, mais c'est par reconnaissance envers Dieu qui a vu mon état de pécheresse et qui a envoyé son Fils unique souffrir et mourir sur une croix pour payer la dette de mon péché. Je ne veux surtout pas offenser mon Sauveur merveilleux qui a tant souffert pour me payer une place dans le paradis, alors que je mériterais d'être châtié éternellement pour tout le mal que j'ai fait. Mon ami, est-ce que tu peux voir toi aussi que tu es un pécheur qui a besoin du pardon de Dieu? N'essaie pas de te sauver toi-même en établissant ta propre justice ou en pratiquant toutes sortes de bonnes œuvres. J'aimerais te lire ce que Paul a dit dans son Épître aux Romains, au 4e chapitre, des versets 4 à 7, concernant les œuvres. Il dit « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, c'est-à-dire qu'il lui est dû, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice, c'est-à-dire qu'il est justifié par la foi. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché, c'est-à-dire l'homme dont les péchés sont pardonnés. Mon ami, repens-toi et reçois Jésus comme Sauveur. »
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme Sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Réjean, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors, je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir, et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, à demain.
C'est un rendez-vous.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.